Bonsoir, vous êtes sur Microscope, c'est la cinquième émission de ce nom et après deux spéciales Japon, on enchaîne sur une émission particulière qui nous mène en Amérique du Nord, plus spécialement à Montréal. Alors plutôt que le Canada, on va plutôt se centrer sur Montréal et Québec. Et en intro, vous venez d'écouter
Monday Morning Erection, un trio composé de Jean-François Loda, David Lafrance et Ghislain Roy, donc qui sont trois musiciens de Montréal aux platines et aux objets inventés, qui sont aussi des artistes peintres initialement, et qui sont un peu des disciples de Martin Tétrault, dont on parlera tout à l'heure.
Alors, on va commencer par un batteur, en fait, un batteur-compositeur qui a un univers bien à lui, bien particulier. Il s'appelle Izia Ceccarelli. Alors, bien sûr, Ceccarelli, aucun lien de parenté avec notre Dédé Ceccarelli national, batteur de jazz, blablabla, que tout le monde connaît. L'extrait qu'on va écouter est tiré de l'album Lieu-dit. Donc, c'est une musique de chambre... pour improvisateur, en fait, c'est assez intriguant, riche harmoniquement, c'est une approche originale, un peu comme hors du temps, et qui a été inspiré, alors c'est assez particulier pour le signaler, qui a été inspiré par un voyage d'Izia Ceccarelli dans les montagnes françaises, les Pyrénées et les Alpes en particulier. Voilà, on va vous passer le premier morceau de Lieu-dit.
Thank you.
C'était donc un extrait de Lieu dit, paru sur Ambiance Magnétique, du batteur Isia Ceccarelli. Donc Ambiance Magnétique est un label phare, on peut dire, au Québec, qui compte plus de 180 références et centralise en quelque sorte toute la création musicale au Québec. L'extrait qu'on a donc passé était joué par Isia Ceccarelli, Jean de Rome, Francisco Lozano, Steve Regale et Clinton Ryder. Voilà, si je prononce un peu mal, ne m'en veuillez pas.
Et d'ailleurs, Isia Ceccarelli, c'est un musicien donc qui est très prisé sur la scène montréalaise. C'est un jeune musicien, il a 35 ans. Et c'est la star montante, on va dire, en musique improvisée sur la scène montréalaise. Et on a l'occasion de le voir assez régulièrement en France, puisqu'il joue aussi régulièrement avec Benoît Delbecq et beaucoup pour des danseurs aussi en France. Donc il est régulièrement en France, on peut le voir en tournée.
Et vous pouvez aller jeter un œil sur son site, sur son blog. Donc vous tapez Isia Ceccarelli, c'est aussi un photographe de qualité qui prend des clichés tout au long de ses voyages. Donc c'est assez intéressant, un personnage très intéressant et... un très grand compositeur.
Alors ce disque est aussi révélateur de ce qui se passe à Montréal en ce moment, c'est-à-dire que les musiciens qui jouent, qui accompagnent Isia Ceccarelli sur ce projet sont des musiciens qui sont plutôt bien implantés, en particulier Jean Desromes qui est un musicien de la génération d'Adam, oui, d'avant, on va dire,
on la aura l'occasion centaine. D'y revenir.
On va en écouter des extraits tout à l'heure, puisqu'on passera un extrait du concert qu'ils ont fait à Montpellier avec Joanne Etu. Et c'est très particulier à Montréal ce mélange de générations, ce qui n'est pas très courant en France. En général, les musiciens sont plutôt cloisonnés par génération, qui correspondent souvent à des esthétiques. À Montréal, c'est pas du tout le cas. Les musiciens se mélangent beaucoup. Aussi, entre musique improvisée, jazz, musique électronique, tout ça, c'est un milieu assez fluctuant et du coup, c'est assez riche. Beaucoup moins cloisonné, en tout cas, qu'en France.
Donc maintenant, autre disque, autre esthétique, un groupe qui a un nom très drôle, ça s'appelle Les Poules. Et en fait, Les Poules, qu'est-ce que c'est ? C'est trois musiciennes qui, des figures historiques, on peut dire, à Montréal et au Québec. C'est Joanne Etu, donc c'est en particulier la directrice artistique de nombreux projets sur Ambiance Magnétique, qui est au saxophone. Diane Labrosse, qui est au sampler et au triturage en tout genre, et Daniel Palardi-Roger qui est à la batterie. Alors il faut savoir que sur ce projet, les trois musiciennes utilisent beaucoup leur voix. C'est un projet où la voix a une grosse place. Et on va vous passer un extrait. Et bon, il faut pas être allergique au bruit de bouche, vous allez voir, mais je crois que sur le morceau qu'on vous passe, il y en a pas trop. Donc voilà, c'est assez particulier et c'est vraiment un projet plein d'humour. Alors le morceau qu'on va écouter s'appelle Porte, entre parenthèses, ouverte. Bonne écoute. Thank you.
Donc c'était les Poules, rappelons que les Poules sont venues jouer à Montpellier il y a 2 ans, au Baloir, programmé par l'équipe du label Rue de Beckning.
Ouais, c'est vraiment de chouettes musiciennes, très sympa, vraiment un beau moment qu'on a partagé avec elle.
Donc voilà, Joanne Etu, elle est directrice artistique sur plein de projets de Dame Musique et d'Actuel CD. C'est aussi la directrice d'Ambiance Planétrique, et c'est elle qui gère tout ce label, qui est un des plus gros labels pour la musique improvisée et le jazz contemporain dans le monde.
Alors maintenant, un disque assez particulier notamment, vous allez vous en rendre compte, l'enregistrement est d'une qualité, c'est assez époustouflant, le traitement sur la stéréo, la prise de son, voilà, j'espère que vous allez y être assez sensible. C'est toujours Isa Ceccarelli, en fait, le batteur du premier extrait qu'on a écouté tout à l'heure. Il est accompagné ici de Michel Côté. Et c'est une musique assez concassée, assez brutiste, vous allez voir, très particulier, mais de grande qualité. Alors le morceau qu'on va écouter s'appelle « Fleurs des idées fixes » et on reparlera de ce CD un peu tout à l'heure et notamment de ses titres.
Thank you.
C'était donc un extrait du disque d'Isia Ceccarelli qu'on a écouté tout à l'heure et de Michel F. Côté. Vous êtes toujours sur Divergence FM. Et donc pour revenir à ce disque qui s'appelle Vulgarité, voilà un concept album autour de la vulgarité. Et je résiste vraiment pas à l'idée de vous donner quelques titres de ce disque parce que les musiciens qui jouent ont fait preuve sur cet album d'une poésie, alors un peu au hasard, destruction des choses, avantage de la débilité, bête à désir retardé, somme de nos échecs, là du futur, apothéose du vague. Grâce Mossad, voilà. Moi, je trouve ça vraiment assez classe que des musiciens se prennent un peu la tête à trouver des titres aussi bien pour leurs disques.
Eh bien, on va justement écouter un autre disque qui a un titre particulièrement sympathique, qui s'appelle Disparition de l'usine éphémère. Et donc, c'est un disque d'improvisation qui regroupe Philippe Lozier, donc, qui est saxophoniste montréalais, dont on reparlera un petit peu tout à l'heure. Pierre-Yves Martel, qui, lui, a la viole de gambe, donc un instrument plutôt pour faire de la musique du Moyen-Âge. Kim Mir à la guitare acoustique et Martin Tétrault, dont on a déjà entendu parler un petit peu tout à l'heure et dont on reparlera encore après, au tourne-disque et à l'électronique.
Et le morceau s'appelle, alors il y a un chouette titre aussi, décidément ces Québécois nous gâtent, ça s'appelle « Gestion des ressources humaines ».
Divergence FM, mais nous venons d'écouter un extrait du disque Disparition de l'usine éphémère, lui aussi sorti sur Ambiance Magnétique. Alors sur ce disque, vous avez pu découvrir donc deux pendants de la scène montréalaise, justement la scène électronique, avec quelqu'un comme Martin Tétrault, qui est une figure de l'électronique au niveau mondial, et puis des plus jeunes musiciens acoustiques comme Philippe Lozier, saxophoniste, donc qui vient plutôt, lui, du jazz, et puis quelqu'un comme Pierre-Yves Martel, qui fait de la viole de gambe, donc qui vient plutôt de la musique baroque, de la musique classique, et qui, là, s'intègre très bien dans un projet de musique improvisée, drainant du coup plusieurs courants et plusieurs esthétiques. Donc ça, c'est assez ancré à Montréal.
Et en parlant de musique improvisée, on va écouter maintenant un projet en duo, en fait, composé de Benoît Delbecq. Alors Benoît Delbecq n'est pas vraiment issu de Montréal, les musiciens français le connaissent bien, il a fait de nombreux projets, notamment avec son quintet, et puis avec le batteur Steve Arguelles, sur le label Plush, un label vachement intéressant, Plush je crois, je ne sais pas pourquoi je dis Plush. Enfin, il est accompagné ici de François Houle, donc c'est un duo.
Et donc François Houle qui est un clarinettiste, donc il n'est pas de Montréal à l'origine, puisqu'il est de Toronto, mais il habite maintenant à Montréal et enseigne à Montréal. Donc c'est un clarinettiste plutôt de musique improvisée qui vient plutôt du classique à l'origine, vraiment une formation musicien classique initiale, et qui est donc de la génération de ces musiciens improvisateurs de la cinquantaine ou soixantaine, donc il a joué avec beaucoup de gens comme Joël Léandre ou des gens comme ça.
On écoute donc un extrait de leur album en duo. C'était Benoît Delbecq et François Houle. Et maintenant, on va vous passer un extrait alors de musicien très important, encore une fois, à Québec. C'est le guitariste René Lucier. Alors René Lucier, voilà, c'est une figure... C'est une figure là-bas.
Oui, c'est une figure à Montréal, mais c'est aussi une figure en Amérique du Nord, puisque c'est quelqu'un qui a joué avec Fred Frith, John Zorn, donc c'est quelqu'un qui est dans ce courant des improvisateurs, on va dire, des années 80 plutôt.
Des années 80, et ici, il est en grande formation, voilà.
Donc c'est plutôt avec un big band, avec de l'écriture, comme vous pourrez le voir, et puis des choses improvisées. Donc je ne sais pas exactement comment fonctionne leur système d'improvisation, mais ça mixe un peu les deux.
Voilà, un extrait du grand ensemble de René Lucier. C'était un extrait, alors on ne l'a pas dit tout à l'heure, c'est extrait de l'album Grand Vent de René Lucier, donc voilà, un grand ensemble de René Lucier. On a l'air un peu pas très loquace sur René Lucier, mais en fait on n'en sait pas trop plus, à part que l'album c'est Grand Vent, Donc voilà, ça fait beaucoup rire en face de moi, mais c'est comme ça.
Bon, et maintenant on va écouter des musiciens qu'on connaît beaucoup plus. Donc c'est un trio avec Philippe Lozier, saxophoniste, un jeune saxophoniste de la trentaine, qu'on a vu aussi à Montpellier puisqu'il est venu jouer plusieurs fois, et notamment avec nous. Et donc il est un musicien très prisé sur la scène montréalaise, qui participe à des projets de jazz, mais qui participe aussi à des projets plutôt électroniques, improvisation, comme on l'a écouté tout à l'heure avec Martin Tétrault, et qui là propose un projet très jazz avec deux autres musiciens, donc Miles Perkins, qui est un contrebassiste new-yorkais, et Robin Custer, un batteur exceptionnel, un jeune batteur exceptionnel à Montréal, qui devient aussi lui la coqueluche avec Isaiah Ceccarelli.
Voilà, on va écouter cet extrait et vous êtes toujours sur Divergence FM. Écoutez maintenant, non plus de la musique, mais d'abord en fait une interview de Nous perçons les oreilles. Alors Nous perçons les oreilles, c'est deux
musiciens de Montréal qu'on a déjà écouté un petit peu dans les disques avant. C'est Jean Desromes au saxophone et Joanne Etu, elle aussi au saxophone et à la voix.
Alors ils ont été invités, donc on les a invités par le label Rude Awakening pour un concert au Baloir, et on a essayé de les faire parler un peu de leur parcours. Donc voilà une interview assez intéressante qui sera suivie d'un extrait du concert.
Voilà, donc un extrait du concert, donc concert inédit, qui s'est déroulé au Baloir il y a quelques mois. Donc voilà, je suis en compagnie de Johan et Jean qui sont arrivés de Montréal hier soir pour faire un concert au Baloir avec un duo qui s'appelle Nous perçons les oreilles, donc qui est composé de Johan Etu et Jean Desromes, saxophone, voix et objet. Alors j'aimerais bien que vous nous présentiez un petit peu le projet de ce duo et puis aussi que vous nous parliez un peu de votre carrière, d'où vous venez, tout ça. Et puis peut-être enfin parler juste un peu de la politique culturelle et de l'état des musiques actuelles à Montréal et en Amérique du Nord de manière plus générale.
Ben, Johan et moi faisons de la musique ensemble depuis longtemps dans différents projets. Et puis je me rappelle qu'une fois pour un projet de musique de film, je lui avais demandé de venir faire des improvisations en studio avec moi, en duo. Et nous avions été ravis des résultats. Et depuis ce temps-là, nous continuons à travailler en duo avec ce groupe qui s'appelle Nous perçons les oreilles. Comme je sais pas si en France vous avez ça, mais les bijoutiers, etc., à Montréal, mettent souvent des petites annonces à la fenêtre. Nous perçons les oreilles. Alors les jeunes filles font la queue pour aller se faire percer les oreilles à partir de 12 ans, 13 ans. Et donc, ben voilà. Alors, ça nous a semblé un bon nom. Je sais pas pourquoi, parce qu'évidemment, ça fait peur un peu. Mais quand même, ça nous a plu et puis nous avons gardé ce nom et depuis fait quand même pas mal de tournées, des voyages un peu partout dans le monde et aussi 3 disques maintenant ensemble. Notre travail se concentre spécialement sur l'improvisation libre, très basé vraiment sur la sonorité, le bruit, un aspect presque archaïque ou presque primitif de rapport au son. Mais aussi, on fait beaucoup de chansons. Ces temps-ci, nous sommes dans une période où nous faisons que de l'improvisation, mais les chansons vont venir certainement. Donc, des espèces de chansons un peu d'apparence anodine ou enfantine qui servent à la fois de tremplin pour de l'improvisation, mais aussi des fois de points de ralliement.
Ce qui était très pratique dans ce duo, c'est que au départ, on pratiquait dans notre cuisine. On avait des jeunes enfants et puis on s'installait quand les enfants étaient couchés, on s'installait dans la cuisine. Puis on pouvait travailler, nous perçons les oreilles, ou dans l'après-midi. Alors, il y avait quelque chose de très organique qui venait de soi. On n'avait pas besoin de louer un local, on n'avait pas besoin de programmer des répétitions. Au gré de la vie courante, on répétait. Maintenant, on répète plus. Mais à cette époque, au début, on a plus répété. Puis quand on fait les chansons, on répète les chansons. On a toutes les deux pas tellement de mémoire avec les paroles.
Mais donc c'est des chansons que vous chantez vraiment.
Oui.
C'est
oui.
Pas que jouer, quoi.
Non, on chante des chansons. Alors, on a besoin de répéter beaucoup les chansons. Puis même après beaucoup de répètes, on garde nos partitions. Puis on travaille, quand on fait les chansons, on travaille avec seulement un pupitre, seulement un lutrin avec un cahier de partition.
Ce qui est amusant, c'est que les chansons sont reliées par de l'improvisation. Et puis, chacun des deux peut tourner les pages du cahier et aller à une prochaine. Et puis, l'autre qui improvise, quand il ouvre ses yeux, il voit qu'il y a un nouvel objectif devant les yeux. Donc, l'improvisation va tranquillement dévier vers cette prochaine chanson. Alors, c'est un ou l'autre qui choisit la prochaine chanson. Les partitions restent toujours dans le même ordre, dans le cahier, mais chaque spectacle a un caractère vraiment improvisé à ce niveau-là, très spontané.
On n'a jamais décidé d'avance l'ordre des pièces, jamais. Ça a toujours été la base du travail et quand même l'improvisation, malgré ces incursions dans des matières plus écrites.
Et votre musique, moi je l'ai ressentie hier soir comme très ludique. Il y a beaucoup de jeux en fait, avec les objets et tout ça. C'est un principe de travail particulier à ce projet ou est-ce que c'est venu comme ça au fur et à mesure
je pense que Ça ressemble à comment on improvise dans d'autres contextes aussi. Mais disons que nous perçons, ça reste un point pas extrême, mais assez avancé du travail. Pour moi, ludique, je comprends presque pas ce que ça veut dire. Il me semble que la musique, c'est toujours ludique. Mais pour moi, les objets, le fait que je joue de beaucoup de petits objets, ça, c'est un peu une réaction justement au fait de jouer un seul instrument. J'ai commencé comme flûtiste, je jouais uniquement la flûte traversière. Et puis, il y a cette croisade là de d'élargir les possibilités de l'instrument, tout ça, de presque de prouver qu'on peut tout jouer avec un instrument, etc., qui est valable en soi, mais c'est un peu une réaction à ça ou un antidote à ça pour moi de penser, de me dégager d'un aspect d'instrumentiste, puis de me dire que le son que je cherche, je peux le faire, ça n'a pas tellement d'importance en fait avec quoi je vais le faire, c'est d'avoir un son vraiment clairement en tête, puis de pouvoir réussir à le faire à tout prix, quoi, avec ce qui vient sous la main. Mais en fait, ça fait seulement repousser le problème plus loin, là, parce qu'au lieu de pratiquer un instrument, je dois en apprendre 35, c'est ce qui est encore plus complexe. Mais il y a un aspect où ça, dans un sens, pour moi, ça... Ça dédramatisait le rapport à un seul instrument. Bon, c'est ça. Un peu comme un coffre à outils, je pense. Bon, c'est sûr que il y a comme deux tendances dans la vie. On peut décider de faire toujours tout avec le même vieux tournevis. Ou bien on s'achète les outils qu'il faut, puis on prend toujours le meilleur outil pour chaque situation. Je pense que c'est un peu... C'est un combat continuel pour tous entre les deux. Alors là, je travaille avec un coffre à outils, mais j'aime aussi le vieux tournevis, quoi.
C'est aussi avec le temps, on est venu à travailler comme vraiment toujours des petites miniatures, comme toutes des petits moments, des instants sonores qu'on enchevêtre un après l'autre, qui donne cette espèce de jeu aussi. Je joue dans un groupe qui s'appelle Les Poules, où est-ce que pendant longtemps, on a travaillé à l'opposé de ça. On travaillait de faire des longues plages, comme un paysage sonore qui bougeait lentement et qui se modifiait doucement, alors que nous perçons les oreilles, on a fait ça aussi, on a travaillé avec des plus longues plages, mais depuis, en tout cas pour le disque, le dernier album qu'on vient de sortir qui s'intitule Chaman, on a vraiment travaillé comme cette idée-là, juste des brèves, des petits moments, et puis aussi du fait d'avoir travaillé pendant des années, et puis je travaille encore avec Diane Labrosse, qui travaille à l'échantillonneur, j'ai comme appris à écouter ces genres de sons, et à tenter un peu de les imiter aussi. Alors, je travaille vraiment beaucoup de sons avec la voix à cause de ce travail-là d'échantillonnage et puis de bruitisme qui inonde maintenant la musique nouvelle. Ben, inonder, peut-être c'est un peu exagéré, mais qu'on retrouve souvent. Et puis, ben, comme d'autres chanteurs, je m'y ai approprié avec la voix. Il y a plusieurs grands improvisateurs vocaux qui travaillent dans cette optique-là aussi.
À la demande générale, nous revenons pour une courte pièce.
Bravo.
Merci. Lay, On va voir.
Annonces de concerts maintenant, quelques sorties qu'on vous recommande. Le 7 février, alors c'est à Montpellier, pour un concert de Denis Fournier Quintet. Alors Denis Fournier est un batteur très important dans le sud de la France. N'oublions pas qu'il est le sosie officiel de Jean-Pierre Julien. Il sera ici avec son Quintet Plus pour la sortie d'un disque à paraître sur le label Rude Awakening. C'est la prochaine sortie du label. Alors, sur ce disque, il y a notamment Jean-Luc Capozzo, Guillaume Séguron, voilà, Bernard Santa Cruz, voilà, il y a
et
deux
Lionel
contrebasses.
Garcin.
Et Lionel Garcin, notamment. Donc, des musiciens très actifs sur la scène dans le sud de la France.
Donc ça, c'était le 7 février à 18h au Théâtre La Canale.
Voilà.
Et puis cette semaine-là sera très chargée en concerts, puisqu'il y aura deux concerts du quintet franco-danois, suédois aussi d'ailleurs maintenant, Contrabande. Ça sera à la scène nationale de Sète le 9 et 10 février. Et puis à la fin de la semaine, le 12 et 13, il y aura à La Chapelle, à Montpellier, une rencontre entre Syntax, qui est un collectif d'électroacousticiens ou d'acousmaticiens, comme on dit, et des musiciens de Rude Awakening. Voilà, donc actualité chargée pour cette semaine du 7 au 13 février.
On va se quitter maintenant. car il faut bien finir avec, comme on a commencé en intro, ce groupe de platinistes et de bidouilleurs de Montréal qu'on a vraiment beaucoup aimé. On attend une sortie de disque, on espère qu'ils sortiront un disque très bientôt. Là, on a un disque un peu bricolé par eux-mêmes, mais qui n'a pas de sortie officielle. Donc, je vous rappelle le nom de ce trio vraiment sur lequel il va falloir compter. Et donc, c'est Monday Morning Erection. Notez encore une fois un nom de groupe assez fantastique. Voilà, Monday Morning Erection. Et à la prochaine pour
bientôt.
Pour l'édition numéro 6 de Microscope. Bonsoir.